Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Il est 13h passé de 4 minutes et nous sommes le jeudi 25 mai 2023. Polar et Pommard au menu de cette émission, nous parlerons du festival Vin Noir avec mes deux invités du jour, Gilles Ratier, bonjour à vous.
Bonjour.
Et Sébastien Vidal, évidemment, bonjour à toi.
Bonjour.
Première partie donc consacrée à cet événement qui se déroulera à Limoges très prochainement, nous allons y revenir. À 13h30, vous entendrez le journal régional et en deuxième partie d'émission, nous parlerons en langue doc, normalement, si tout va bien. Enfin, Sherlock Holmes du patrimoine, c'est le nom d'un projet pédagogique lancé par l'Académie de Limoges. Vous l'entendrez à 13h50, c'est le sujet de la chronique en Limousin. Et à 13h55, Isabelle vous donnera la météo de demain, c'est promis. Vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. La 11e édition du festival Vin Noir, le festival international du polar et du vin de Limoges, se déroule du 1er au 4 juin. Merci Sébastien Vidal et Gilles Ratier d'être à mes côtés aujourd'hui pour parler de cet événement de taille. Visite guidée de Limoges à l'heure du crime, apéritif énigme, enquête et devinette estampillée, raisin noir pour les plus jeunes, cuisine criminelle au hall, escape game géant dans la ville sur le thème Lupin contre Irène Adler. Voici une liste non exhaustive de la programmation. Gilles Ratier, vous êtes membre du CA du festival. Que sera le fil rouge de cette 11e édition ?
Bien, comme vous l'avez dit, on parlera beaucoup d'Arsène Lupin. Arsène Lupin qui est d'ailleurs sur l'affiche de présentation est plutôt une lupine. Un petit clin d'œil aux dames qui sont invitées, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs femmes qui seront présentes. Les femmes aiment beaucoup le roman noir et le pratiquent de façon souvent avec brio. Le festival, et comme vous l'avez dit, vous avez résumé un peu tous les événements. Faut juste préciser que le jeudi, le festival commence avec une conférence sur les enjeux et l'essor de la police scientifique à la Belle Époque. De Pierre Piazza qui donnera une conférence et qui dédicacera son livre ensuite. Ça, c'est la BFM.
On va revenir un peu en détail hein, sur cette vaste programmation, parce que c'est un festival qui est très chargé. Arsène Lupin, vous l'avez dit, le personnage à l'honneur de cette édition, qu'a-t-il de fascinant ?
On le connaît et on ne le connaît pas. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Et les romans de Maurice Leblanc, certes, c'est du polar, mais c'est aussi de l'histoire, du social, du roman noir, en fait. Ça ne s'appelait pas le roman noir à cette époque-là, mais c'est une belle définition de ce que ça peut être aussi le roman noir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui vont venir, qui utilisent encore l'histoire. Je pense à Hervé Lecor, par exemple, qui utilise beaucoup les événements historiques pour raconter des polars historiques, donc du roman noir.
9 lieux de Limoges sont animés par l'événement. Est-ce que vous pouvez nous faire une cartographie un peu du festival dans cette ville ?
Tout est basé à peu près dans le centre-ville, en gros, entre la chapelle de la Visitation, la BFM, donc à notre endroit, et surtout la place de la Motte le samedi, donc juste à côté des Halles, en fait, qui est le grand événement. C'est là où les gens peuvent rencontrer les auteurs, pas que, parce qu'ils peuvent le rencontrer aussi le vendredi soir, à la soirée d'ouverture à la chapelle de la Visitation, mais c'est vraiment le moment phare où tous les auteurs seront présents, dédicaceront, tous les vignerons seront là. C'est parce qu'il faut parler aussi de vin, parce qu'en effet, le festival, c'est de la littérature, bien sûr, avant tout. Mais c'est aussi un endroit où on peut déguster d'excellents vins. Et il y a 10 vignerons de qualité très importants. Je pense à Oupelot, Champagne-Perrier, qui sont connus, n'ont pas besoin de réputation, mais d'autres petits vignerons et vigneronnes, d'ailleurs. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes, qui vont vous faire goûter des vins. Et le principe est très simple, puisqu'il suffit d'acheter un verre, estampillé vin noir, et on peut goûter à tous les vins et se faire dédicacer entre chaque vigneron les livres par plein d'auteurs de réputation. Puisque notre salon est international, mais ça j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Il n'y a pas que des auteurs français ou locaux, comme Sébastien qui est à côté de nous, mais aussi des Américains, des Italiens et un Portugais.
Et cette édition, elle est aussi placée un peu sous le signe de l'intergénération. Il y a des animations qui sont pour les tout-petits aussi. Enfin, il y a des jeux pour les familles. Parlez-nous un peu de cette programmation. Comment a-t-elle été pensée ?
C'est un peu une nouveauté par rapport aux autres années. C'est qu'on veut essayer de montrer que le festival, ce n'est pas réservé qu'aux adultes, qu'il n'y ait pas que le côté que je viens de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire que le côté littéraire et le côté vin boire, on vient goûter, déguster les bons vins. C'est intéressant d'initier les jeunes. Et donc, l'idée de la programmation a été de s'étendre, et c'est pour ça a donné le résultat que vous avez, notamment avec Raisin Noir, qui est l'appellation que l'on donne pour les enfants, parce qu'il est hors de question de faire boire du vin aux enfants, évidemment.
Je tenais à ce qu'on en parle aussi, cette édition est une édition hommage, un hommage au romancier limougeau Joël Nivard, qui s'est éteint cette année. Qui était-il, Gilles Ratier ?
Alors, Joël était un vrai auteur de romans noirs, un type brillant, une gentillesse étonnante. Bon, je le connaissais assez bien, donc j'ai beaucoup encore d'émotions à en parler. Il était aussi connu pour le grand public parce qu'il s'était coquiné avec son collègue Franck Linol pour écrire des romans noirs aussi en quatre mains avec leur propre protagoniste personnel qu'il mettait en scène. Alors il y a eu trois romans en tout, puisque le troisième est sorti après le décès de Joël. Mais Joël écrivait aussi tout seul ses propres romans, et d'une qualité, d'une écriture très fine, que l'on retrouvait aussi, évidemment, dans ceux qu'il faisait avec notre ami Franck Linol, qui sera d'ailleurs présent, puisque Franck et Joël ont fait partie des fondateurs de Vin Noir, du festival, avec Franck Bouys, voilà.
Oui, parlez-nous de la genèse de cet événement, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de revenir dessus, mais comment est-ce que le mariage entre le vin et la littérature noire est-il...
Je crois que... Alors, j'y étais pas à cette époque-là, mais d'après ce que Jean m'a raconté, c'est autour d'une bonne table, avec plusieurs bons vins. Je crois que Joël Nivard buvait du Chablis, parce qu'il adorait le Chablis. Et l'idée est venue comme ça. Les auteurs locaux se sont dit pourquoi pas s'auto-promotionner en faisant un festival autour des choses qu'on aime bien, c'est-à-dire la littérature et le vin.
Oui, vous parliez d'une bonne table tout à l'heure. Il y a la notion aussi de gastronomie, parce qu'il y a quand même plusieurs événements autour de la cuisine pendant cette 11e édition.
Là encore, c'est pour diversifier le thème, parce que ne pas rester juste sur le fait de que les gens viennent que pour consommer des boissons, enfin du vin, consommer du livre, quoi. Bon, même si c'est le but principal de la manifestation.
On va écouter un titre tout à fait approprié, Jacques Dutronc, avec évidemment le gentleman cambrioleur, et on se retrouve juste après pour poursuivre cette interview autour de cette 11e édition du Festival Vin Noir, un festival international du polar et du vin, qui sera donc à Limoges du 1er au 4 juin.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de la crise à la danse, à l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur.
Le gentleman cambrioleur de Jacques Dutronc, bien sûr, et ce titre qui vient soutenir le personnage principal de cette 11e édition du Festival Noir, le Festival international du polar et du vin, dont le personnage thème et phare, ce sera Arsène Lupin. Mes invités pour en parler à mes côtés, évidemment, Sébastien Vidal et accompagné de Gilles Ratier. Ensemble, nous avons en première partie d'émission commencé de parler un peu de cette programmation. C'est un festival qui se déroule du 1er au 4 juin prochain à Limoges. On l'a dit, c'est un festival international. Alors, pour toi, Sébastien Vidal, que représente cet événement, ce festival ?
Oh ben, tout simplement, c'est le gros salon, c'est le gros festival de littérature noire de la région. Et quand je dis la région, c'est pas la région Limousin, c'est beaucoup plus large que ça. Donc c'est, je pense, un des premiers ou le premier festival qui a eu l'idée d'associer le vin et la littérature noire. Ça a fait école depuis, parce qu'il y a pas mal de salons qui ont repris la même formule. Donc c'est un rendez-vous de, que ce soit en tant qu'invité ou en tant que visiteur, c'est un rendez-vous de qualité, puisqu'on a des auteurs vraiment des pointures, nationales, internationales. Cette année, par exemple, on a dans les auteurs, dans les guest stars, on a l'Américain Craig Johnson.
Tu vas faire une conférence d'ailleurs, je crois.
Oui, Olivier Bardot-Cabuzon, va l'interviewer sur sa carrière. Alors, Craig Johnson, c'est un mythe, quoi. Il vient, il a le Staten, c'est tout juste, il ne va pas venir avec sa Winchester. C'est vraiment, il fait son cinéma aussi. Hein, c'est vraiment un personnage assez extraordinaire. Et puis l'autre Américain aussi, vraiment du même topo, James McLaughlin, c'est pareil, un peu moins connu, mais c'est vraiment des grosses pointures.
Ouais, et puis il y a l'Italien Valerio Varezzi de chez Agulo. Donc voilà, il y a toujours des... Là, on est vraiment sur de la qualité. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne les ai pas tous en tête, mais bon, il y a des gens comme Hervé Lecor, qui est une des plus belles cylindrées de la littérature noire française, Franck Bouys, idem, Patrice Guin, qui est un auteur, qui a un pied dans le noir et un pied dans ce qu'on appelle
dans la lumière.
Le nature writing. Michael Mention, enfin il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts quoi. Et là j'étais un peu vilain parce que je n'ai pas cité de femmes.
Il y a Louise May, voilà. Anne Lorquer.
Voilà, il y en a pour tous les goûts.
Ouais, c'est ça, Samira Cédira
dont
aussi,
le film a été adapté d'ailleurs au cinéma oui. avec Isabelle Huppert, me
semble-t-il. C'est ça,
tout à fait, la daronne.
Et pour finir de répondre à ta question, pour moi ce salon c'est vraiment un salon qui génère de la rencontre. C'est la convivialité, puisque là les gens arrivent, en tout cas pour le village du Polar le samedi, les gens arrivent, donc ils peuvent acheter un verre qui sera collector, qu'ils pourront ramener et utiliser chez eux. Ils peuvent consommer goûter des vins et discuter avec les auteurs, discuter avec les vignerons, discuter avec les autres lecteurs et lectrices qui sont là. Donc ça fabrique de la convivialité. C'est très agréable. On est détendu. Il y a pas de stress. C'est que du plaisir.
Oui, je disais d'ailleurs que certains auteurs étaient des personnages, mais dans les vignerons, il y a aussi des personnages qui savent bien vendre leurs produits et qui sont assez... voilà. Il y a aussi, je rajoute, tant que je suis bavard, je suis désolé,
mais je, vous en prie.
Je rajoute une seule chose. Alors, il y avait sûr des écrivains de polar, mais il y a aussi deux auteurs de bande dessinée, parce que depuis quelques années, on a amené la bande dessinée, parce que le polar en bande dessinée, il existe, il est souvent de bonne qualité, et cette année, on a deux auteurs importants. Christian Caillot, qui vient d'adapter un des premiers romans durs de Simenon en bande dessinée, mais qui est aussi connu pour avoir dessiné un Black et Mortimer, donc c'est pas rien. Ça va faire venir les amateurs et les collectionneurs. Et Giuseppe Liotti, qui était auteur italien, qui vient d'adapter Cadre noir de Pierre Lemaître, donc l'auteur de là-haut. C'est un roman qui est adapté avec Eric Cantona dans le premier rôle, je ne me souviens plus comment il s'était traduit en série télé, mais voilà, en tout cas, il n'a pas fait que ça, hein, il fait beaucoup de choses, et c'est aussi vraiment très très intéressant. Et puis ça donne ça va encore, là encore, de la variété dans la programmation de notre festival.
Oui, c'est un festival à multiples facettes, hein, on le voit au fur et à mesure de cette interview. Claire Calan, co-présidente de l'événement, déclare, je la cite, ce 11e festival sera le porte-parole de celles et ceux qui transgressent les règles du roman à énigme au roman le plus noir. Alors maintenant, question, Sébastien Vidal et Gilles Ratier. En quoi la littérature noire bouscule-t-elle les codes?
On a combien? 2 heures?
Vous avez 3 minutes.
La littérature noire a toujours, c'est dans son ADN, c'est sa raison d'être, de transgresser, puisqu'elle est là pour dénoncer. Elle a un usage, un discours et un usage subversif, puisqu'elle montre qu'un autre chemin est possible. Elle montre la littérature noire, c'est la littérature du désordre, qu'on peut opposer au roman policier, pur jus, qui est le roman de l'ordre. Donc, étant donné que c'est la littérature du désordre, c'est un espace de liberté.
Mais qu'est-ce que vous entendez par le désordre? On passe du côté des voyous, c'est ça?
Oui, on les voit agir, on les approche, on comprend leur motivation. Alors, on n'est pas obligé de les justifier, mais au moins on les comprend. On découvre un autre univers qui fait partie de notre monde, mais qui n'est pas éclairé. Donc, elle a ce côté subversif de dire, voilà, ça existe, voilà comment ça marche, voilà à quoi ressemble la société dans laquelle tu vis, cher lecteur.
C'est avant tout du roman social, je pense, si on peut... Alors, il peut y avoir une enquête, hein, évidemment, comme un roman policier classique, mais c'est ça, la différence, c'est que systématiquement, il y a un cadre social et des choses qui sont dénoncées, justement, souvent, par les auteurs.
Oui, tout à l'heure, je parlais de Hervé Lecorre, il avait une formule pour décrire le roman noir. Alors, de mémoire, donc, je ne garantis pas l'exactitude de chaque mot, mais il disait quelque chose de cet ordre. Le roman noir, c'est l'expression poétique de la violence humaine et du désarroi. Je crois que quand on a dit ça, on a tout dit.
Et puis finalement, c'est aussi ce qui rappelle notre humanité et ce qui construit aussi notre humanité. Mmh. Alors maintenant, une autre question tout aussi philosophique. Est-ce que le vin a-t-il une influence sur l'univers noir du polar?
Gilles?
Ah oui, mais Alors déjà, je ne sais pas si vous avez lu beaucoup de polars, mais souvent, les héros, les protagonistes, qu'ils soient détectives, policiers, tout ce que vous voulez, médecins légistes ou autre chose, ils picolent pas mal, en général. Ouais. surtout dans la littérature américaine. Moi, j'ai lu beaucoup de littérature américaine des années 50. Mais qu'est-ce qui s'enfilait ? Mais c'est pas possible.
Ouais. Et c'est pas gratuit, en fait. Ouais. Puisque si le personnage, ou si les personnages, certains personnages consomment plus que de raison, c'est parce qu'ils vont pas bien. Et s'ils vont pas bien, c'est parce que le monde ne va pas bien. Donc, ils se font désespérer. Et pour oublier à un moment, quelques heures, quelques minutes, ce monde désespérant, bah, ils se réfugient dans la... c'est ce qui les aide à tenir. Donc autant, tant qu'à boire, autant boire du bon vin.
Donc il y a vraiment un lien direct entre le polar et le vin.
Voilà.
Alors, on n'a pas tout annoncé hein, de ces événements. Est-ce que Gilles, vous voulez annoncer encore un ou deux temps forts de cette programmation ? Je ne sais pas si vous aviez envie de parler d'un événement en particulier.
Tout est important, que ce soit la conférence sur les enquêtes à la Belle Époque ou l'animation jeunesse de cuisine qui se fait parallèlement au village le samedi. Alors ça, surtout pour les enfants, évidemment. Alors c'est un peu décalé du lieu de la Place des Modes parce que, évidemment, on va pas... Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas inciter les enfants à boire, mais ils auront leur animation. Donc les parents pourront laisser tranquillement leurs enfants à la librairie Rêve en Page, tandis que les autres iront voir dédicacer leurs livres à côté de la librairie Page et Plume. Donc nous travaillons en bonne compagnie avec tous les commerçants de la ville de Limoges. Il y aura aussi une exposition Arsène Lupin, pas loin, chez Francis, à l'épicerie des Halles, juste à côté de la place de la Motte. Enfin, la journée, normalement, devrait être chargée et remplie. Les journées seront remplies, plein de choses. Et je ne vous parle pas du vendredi. Alors là, le vendredi soir, c'est l'ouverture officielle. Donc, on a déjà parlé de la conférence avec Craig Johnson. Mais il y aura aussi, en partenariat avec France Bleu, un plateau avec des invités, dont bien sûr des auteurs qui seront déjà là. Et ça sera suivi après donc, de la conférence avec Jacques Johnson. Et enfin d'un buffet italo-américain, normal, vu le nombre d'Italiens et d'Américains que nous avons invités, que les gens qui pourront rentrer, parce qu'il n'y a pas tant de place que ça dans la chapelle de la Visitation, mais on tape quand même sur une centaine de personnes, pourront partager avec nous le repas et les vins que nous avons choisis pour l'occasion.
Alors on l'a dit, c'est un événement qui commence le jeudi 1er juin et qui se termine le dimanche 4 juin. C'est la première édition où vous poursuivez cet événement le dimanche. Pourquoi ?
Eh bien, parce que beaucoup d'auteurs, après la nuit épouvante de la suite de la soirée le samedi, se disent le dimanche, on a envie de rester, on n'a presque pas vu Limoges, quoi. Bon, on se promenait, on s'est dit oui, c'est pas bête. Donc on va prolonger la journée, mais on ne va pas non plus en demander trop à ces pauvres auteurs que l'on a déjà martyrisés la veille. Donc c'est plus une animation qui concerne la jeunesse, hein, avec les escape games géants. Et
démonstration
culinaire. Donc, il y aura moins de pression pour les auteurs. On pourra les ramener tranquillement à la gare. Les bénévoles pourront un peu se décharger et s'occuper de les mettre dans le train s'ils n'arrivent pas à trouver le bon wagon tout seul. Je plaisante évidemment. Et voilà, ça fait une journée de plus, sans que ça soit une journée de pression énorme ni pour les auteurs, ni pour les organisateurs. Et ça permet de faire un vrai festival, c'est ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que, on peut pas, on voudrait surtout dire que même si c'est le point fort, c'est le samedi, ce n'est pas que le samedi. Voilà. C'est un vrai festival, avec les auteurs sont là depuis le vendredi, certains depuis le jeudi. Donc on peut voir les gens, discuter avec eux, comme disait Sébastien tout à l'heure, c'est un moment de rencontre, les gens peuvent découvrir, il y aura des traducteurs pour les Américains, les Espagnols, les Italiens et le Portugais, certains parlent très bien français... Il y aura des auteurs locaux que vous aurez le plaisir de retrouver. J'oublie François Clapeau des Fer 3 qui est un très bon écrivain de polar.
Alors où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos concernant cet événement ?
Alors on a le Facebook Vin Noir, le programme est diffusé à droite et à gauche.
Je remettrai le lien sur le site du podcast.
Voilà. Et puis voilà, on a imprimé le programme, donc je peux aussi vous en laisser là pour que vous puissiez en distribuer à ceux qui le demandent. Voilà.
Merci infiniment Gilles Ratier d'avoir été au micro de Bram FM. Merci Sébastien, que nous retrouvons fin juin pour une chronique qui soigne bien les angoisses, 7 mots sur ordonnance. Moi je le dis, je remettrai toutes les informations concernant cet événement, le festival Vin Noir, un festival autour du vin et de la littérature. Alors je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On se quitte avec un thème...
En revanche, l'abus de littérature n'est pas dangereux.
Non, donc allez-y. Mais bon, des fois quand on lit trop des choses, quand on regarde un film où on voit des gens qui boivent du vin, ça peut donner envie. Donc on rappelle
vrai,
quand même que...
C'est
bon.
Vrai.
Voilà. Alors, on se quitte donc avec le thème d'un film qui s'appelle Asphalt Jungle. C'est un titre de Miklos Rosa. Et voilà, c'est très dans l'ambiance, vous allez voir. Merci à tous les deux.
Au revoir.
Merci.
Et dans quelques instants, nous poursuivons notre émission et nous allons quitter l'univers donc, du livre noir pour basculer dans l'univers de l'Occitan. Je ne vous en dis pas plus, il est 13h30 sur Bram FM et c'est l'heure évidemment de votre rendez-vous avec le journal régional proposé par Le Graal. À tout de suite.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Une minute de silence a été observée hier à l'hôpital de Guéret, mais aussi au CHU de Limoges et dans tous les établissements de santé. Un hommage aux victimes du CHU de Reims et particulièrement à Karen Mezzino, l'infirmière a trouvé la mort après avoir été poignardée ce lundi. Un homme a été placé en garde à vue hier. Il aurait menacé de mort les employés d'une agence Crédit Agricole à Guéret. Visiblement, son compte en banque n'était pas autant rempli qu'il l'imaginait. Une situation qui l'aurait fait sortir de ses gonds, bien connu des services de police. Il s'est lui-même livré au commissariat. Un rassemblement pour alerter sur la situation de la ligne ferroviaire Limoges-Angoulême. Élus et représentants syndicaux appellent à une mobilisation ce jeudi 25 mai à Chabanais pour une alerte ferroviaire sur l'axe entre Charente et Haute-Vienne fermée en 2018. Le rassemblement organisé à 17h30 est l'occasion de demander le développement d'une véritable offre ferroviaire voyageurs et fret dans le territoire. Eliane Crocci du comité Vigilance Ferroviaire Limousin au micro Kaolin FM de Christophe Gourcerolle.
La même journée, il y a 5 rassemblements sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un rassemblement en Corrèze, en Charente-Maritime, au Pays Basque et dans le Bordelais. C'est une action que nous avions déjà faite en octobre 2020, sur le même mode, à plusieurs endroits de la région Nouvelle-Aquitaine au même moment. Et apparemment, on a du mal à se faire entendre, donc on va continuer parce que pour nous, c'est important, d'autant plus que le ferroviaire est quand même un mode de transport sécurisé qui répond à l'enjeu environnemental auquel nous sommes confrontés. Notre but, c'est de porter une parole unie à la région et à l'État.
Les rassemblements pour la sauvegarde du ferroviaire sont organisés ce jeudi à 17h30 devant les gares de Chabanais en Charente-Limousine et de Brive en Corrèze. Les mobilisations se veulent donc un signal d'alarme lancé au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui doit se prononcer prochainement sur la privatisation du TER. Son contrat prendra fin le 30 juin. L'entraîneur des trois quarts du CA Brive, Jean-Baptiste Péjoine, va quitter le club dans lequel il aura passé 22 ans de sa carrière sportive. Nous n'avons pas beaucoup de détails. détails, mais cette annonce est probablement liée à la relégation du club corrézien en Pro D2 pour la saison prochaine. La 26e édition du Carrefour génétique ovin de printemps se tient aujourd'hui à Bellac. Pour ce rendez-vous, des éleveurs de moutons, plusieurs sélectionneurs venus de toute la France proposent leurs meilleurs reproducteurs. Une nouvelle édition qui met en avant une filière ovine qui peine à se renouveler, mais un événement qui reste populaire et incontournable. Michel Maisonnier, président du Carrefour génétique ovin de Bellac, au micro RMJ de Philippe Quiquempoix.
À l'heure où je vous parle, on a autant de béliers d'inscrits que l'année précédente, puisque en 2022, on avait 220 béliers présents sur le parc, et qu'aujourd'hui, on est à 214. Donc, grosso modo, ça se maintient. Les éleveurs viennent chercher surtout des béliers inscrits pour apporter une amélioration dans leur troupeau. C'est surtout ça qu'ils cherchent. Aujourd'hui, là, on a encore 7 races de présentes, parmi les principales, surtout les races bouchères, style le charolais, ou comme les texel, puis les suffolk, et puis on a aussi des autres races, charmois, dorset, rouge de l'ouest, vendéen, qui viennent régulièrement.
Le 26e Carrefour génétique ovin de printemps se déroule aujourd'hui à Bellac, dans le nord Haute-Vienne. La prochaine foire ovine aura lieu le 7 septembre et fêtera ses 60 ans d'existence. Elle aura lieu conjointement avec le salon Tech Ovin les 6 et 7 septembre. Autant dire qu'avec ces deux événements, Bellac conservera sa place de capitale du mouton. 406 plages de France obtiennent le pavillon bleu pour la saison estivale à venir. Un label qui récompense les plages propres et respectueuses de la biodiversité, une eau de qualité dans un environnement sécurisé et accessible aux personnes à mobilité réduite. 60 plages pourront hisser ce pavillon en Nouvelle-Aquitaine, dont 6 en Corrèze, le lac de Séchémaille à Ambrujat-Mémac, la plage du lac à Égletton, l'étang Le Maury à Ligignac, le plan d'eau de Masseret, la plage à Neuvic-du-Sel et la plage des Barrios à Trégnac. Un label de plus en Dordogne, ce qui porte à un total de 4 pavillons bleus, le lac du Gurzon, la plage du Grand Étang de Gémaille, l'étang de loisirs de Tarnies et la plage du Grand Étang à Saint-Estèphe. Aucun pavillon en Creuse et toujours les deux mêmes en Haute-Vienne, l'espace Hermeline de Bussière-Galant et le lac de Plaisance à Saint-Hilaire-les-Places. Et puis toutes nos félicitations à 4 élèves du collège Jean Lursa de Brive qui ont remporté le championnat de France UNSS en triathlon. La compétition avait lieu hier à Gravelines dans le département du Nord. Une médaille d'or pour Louane, Tom, Lohan et Jasper. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com. Vous pouvez nous écouter en direct et réécouter toutes nos émissions en podcast. Et si Yves, il y a des invités qui reviennent pour faire une photo dans le studio. Donc on est ici d'ailleurs dans le studio jusqu'à 14h. Elle m'a rejoint dans le studio pour un instant suspendu dans le temps, un moment unique entre le commun des mortels et ceux qui sont passés dans l'au-delà, mais qui ont défié la mort tant ils et elles restent vivants ici-bas. J'ai nommé pour la rubrique nécro Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Eve. Eh bien, comme tu viens de le dire, me revoilà dans une rubrique nécro, ne pouvant une nouvelle fois pas passer sous silence la disparition récente de quelqu'un comme Tina Turner. Mon titre du jour est River Deep Mountain High, fusion magistrale d'Ike et Tina Turner. Ce morceau sorti en 66, figurant sur l'album du même nom et qui fut commercialement un échec, mais devenu par la suite un classique, a été produit par Phil Spector, embauché par les Beatles peu après. Ce morceau est un bijou non seulement de production mais aussi d'interprétation. Son intensité et son mélange volcanique de soul, de rock et de pop transcendent les genres et repoussent les limites de la musique populaire. Vous remarquerez l'ouverture grandiose de l'orchestration et la voix de Tina qui se déploie au cours du morceau avec une puissance saisissante, naviguant avec aisance entre les nuances délicates et les explosions vocales. Tina Turner, croisement entre un tigre du Bengale et le python de la fournaise, est une détonation d'émotions faite d'audace et de sensualité. Les arrangements musicaux de River Deep Mountain High sont non moins époustouflants. Violon, cuivre et percussion en augmentent sa profondeur. Le pont musical avec ses harmonies vocales et ses variations rythmiques est une pure virtuosité. Les paroles parlent d'une passion dévorante et évoquent la force des éléments naturels, comparant l'amour à un fleuve et à une montagne. Image pour le moins ironique quand on connaît un petit peu l'histoire du couple toxique de Ike et Tina. Tina Turner, petite fille du Tennessee des années 40, symbole des femmes qui s'émancipent dans un état qui les agresse et des hommes qui les violentent, s'est éteinte hier. Mais son feu brûle encore.
I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets
Tina Turner avec le titre River Deep Mountain High. Elle s'est éteinte donc hier. C'était la rubrique du jour proposée par Isabelle. Vous pourrez la réécouter à partir de 14h30 dans le podcast de l'émission sur le site de Bram FM. Isabelle qui reviendra donc à 13h55 pour nous parler du temps de demain. Pour l'heure ici en studio, Isabelle m'a rejoint. Bonjour à toi.
Adi à tout le monde.
Et aujourd'hui, Isabelle, tu vas nous parler d'un événement incontournable. Évidemment, le festival Baladoc, tu l'as.
Et oui, alors donc, déjà, vendredi, samedi, dimanche, il y a du côté de Saint-Jean-la-Gineste, Bannes et Saint-Céré le festival Escambi, nos partenaires. Et le festival Baladoc, donc, est la semaine après. Le divendre est 12 des juin et le 17 est 13 des juin. Le divendre est la visite gratuite de la manufacture d'accordéon homogène, SD Pabanka. Et après, Lucer fera une animation à la médiathèque, à Mélas Classe d'Oussita, des Tulles. Et après, Lucunta irait Daniel Chavaroche, qui est vengu des Sarlats.
Quel est le fil rouge de ce festival pour cette année 2023, Isel?
Alors, cette année, il y a un peu 12 fils rouges. Il y a l'intégration à l'aggloméré, la nouvelle édition sportive, et donc des séduits à un nouvel public. Et Tabé, il y a un peu un fil rouge. Loulou Périgord, avec une belle co des convidats des Périgord, Daniel Chavaroche de Sarlat, Jean Gagnaire de Nontron, et après le trio Poche Delteil de Périgueux et d'Acousta des Périgueux.
À qui s'adresse ce festival?
Alors, chaque année, il y a l'idée des convidats toute la génération, et là, c'est un carreau mai qui mai. Par exemple, donc faisons d'animation des amélouzes coulants parce que Lucita sio un effort de la classe, mais tabé un plateau radio à mes braves FM et un stage des camps, des chants, un stage de chant à mes Régis la tapis del groupe Vox Bigeri, et puis après d'animation une rencontre littéraire, une visite del bourg de Chameira, et puis après des musiques, des concerts et des balles.
Alors on voit que c'est une programmation riche et variée et qui ne reste pas seulement à Tulle mais qui va aller un petit peu au-delà à travers les bourgs aussi corréziens.
Et oui, donc à Questan, à Niren, à Chameira, à Custa et Tulle, entre Tulle et Brive, per toute la journée del 17 qui commencera donc le matin sur le podium d'arrivée del Randonaire. Amélou platé au radio, et puis l'estagie des camps, hein, qui l'a déjà dit, mais qu'est-ce n'est pas manqué, et pouvez-vous vous inscrire à l'avance à Escuncilla.
Alors en quoi était-ce important pour l'association Baladoc de ne pas rester à un seul endroit, mais d'aller un petit peu se balader sur le territoire corrézien?
Est-ce un peu notre idée des fêtes d'animation, des pourtant taber la culture d'un nouveau village, et de mettre en valeur la culture del village. Et par exemple, il y a des taliers d'Ucita, à Custa de Tulle, à Chemeira, Saint-Mexan, Saint-Martial de Gimel, Aigleton. Et donc, c'est d'animer le village et un peu de rendre ce qui est bail à la ville au centre, ouais, mais le déplacement del travailleur et tout à coup.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant cet événement?
Alors, le plus simple est d'aller sur le site internet baladoctula.org ou sur Facebook baladoctula troubares, et après vous pouvez trouver des chansons de las éditions précédentes sur notre saden YouTube baladoctula tabé.
Merci infiniment Isel Dijoux de nous avoir parlé de cet événement qui se déroulera donc très prochainement sur le territoire. Est-ce que tu peux redonner les informations concernant le festival?
Oui, donc le lou divendre à Tulle, Amé la Serra de Lucer à la médiathèque, Amé Daniel Chavaroche, et Lou Dissate à Chameira, donc Lou Mati, Lou Platé Radio et l'Estagie des Champs à mes Régis Latapi. Et après, l'après-midi jour, et la Serra de musique et littérature et balade d'In Chameira, d'In Lou Centre de Chameira, Troubares, c'est pas tant grand qu'à court.
Merci infiniment. On se quitte en musique avec le thème du film Un témoin dans la ville.
Thank you.
Oui, vous l'aviez reconnu, le thème du film Un témoin dans la ville, un film de 1959 réalisé par Édouard Molinaro, avec Lino Ventura, Jacques Berthier, Sandra Milo et bien d'autres encore. Dans 5 minutes, Isabelle viendra vous donner le temps de demain. Il est 13h50 sur Bram FM et un petit peu partout ailleurs, je crois, en France. C'est l'heure évidemment de la chronique en Limousin, proposée par Le Graal. On se retrouve juste après.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
L'Académie de Limoges a lancé les Chalogues du patrimoine, un projet pédagogique qui permet à 4 classes de cours moyens de Haute-Vienne de découvrir leur environnement architectural local. Mais comment est venue l'idée des Chalogues du patrimoine et en quoi ça consiste ?
Ce projet est né de la volonté de faire travailler les enfants sur leur patrimoine de proximité.
Karine Texier, conseillère pédagogique à l'origine du projet.
L'éducation artistique et culturelle s'est affirmée dans les programmes du premier degré et la question du patrimoine est devenue une question au cœur des programmes. Pourquoi les Chalogues du patrimoine ? Eh bien, tout simplement parce que l'idée qui prévaut, c'est de faire mener aux enfants une enquête sur un élément patrimonial architectural de leur environnement. Tout part de cette volonté de mener une enquête. Les enfants vont avoir à leur disposition au départ une malle avec des ouvrages différents, des bandes dessinées, des romans, tous étant du genre policier. Et ils vont déjà, dans un premier temps, découvrir ce qu'est une enquête avec ses indices, ses prises d'indices, ses mises en réseau. Et après, ils vont pouvoir se lancer dans l'enquête à proprement parler de leur édition. De proximité.
Et les monuments architecturaux sont déjà prédéfinis par l'Académie ?
Le dispositif est ouvert à 4 classes seulement sur le département pour des classes de CM. Le projet est lancé, les enseignants s'inscrivent et 4 classes sont retenues. Je demande alors aux enseignants de sélectionner un bâtiment dans leur environnement proche, voire très proche, qui leur paraît pertinent. Moi, je m'adresse aux partenaires et je vois avec eux s'il y a matière à travailler sur ces édifices. Parce qu'en fait, dans le projet, donc, il y a 3 partenaires, les archives départementales, la Maison de l'architecture qui est une association qui prend appui sur le territoire et qui propose des expositions, des conférences, des visites et des ateliers. Et le troisième partenaire, c'est le service du patrimoine et de l'inventaire de Nouvelle-Aquitaine. Donc ces 3 partenaires vont aller à la rencontre des enfants pour expliquer ce qu'ils font, comment fonctionne leur structure, et ils vont amener des éléments aussi aux enfants par rapport à l'édifice qui a été sélectionné. C'est eux qui vont valider ou pas l'édifice.
Il y a 4 classes par année, ça part du volontariat des enseignants. Vous me dites que voilà, il y a peut-être plusieurs classes qui vont être intéressées. Et comment on choisit en fait finalement les 4 classes ?
C'est l'idée que l'entièreté du territoire soit représentée. Donc cette année, pour être plus précis, il y a Saint-Priest-sous-Aix qui travaille sur les moulins du Domaille, une école de Limoges, l'école Montmagné qui travaille sur l'ancien tribunal de Limoges. Au nord du département, une classe de Magnac-Laval qui travaille sur l'ancien collège. Et au sud du département, une classe de Saint-Jean-Ligour qui travaille sur le château de Chalucé. Donc c'est vraiment la volonté de faire en sorte que le territoire de la Haute-Vienne soit...
représenté dans son ensemble,
les
en
classes,
fait.
Voilà, ouais. Exactement.
C'est une sorte de contrat entre les enseignants, les élèves et l'académie, Karine Texier.
Tout à fait. Donc chaque classe va travailler sur ces différents édifices tout au long de l'année. Les enfants vont aller aux archives départementales, travailler sur le fond d'archives de leur monument. Le service de l'inventaire, venir dans classe pour expliquer ce qu'ils font et travailler sur les matériaux, sur la signification de certains éléments forts. Et la maison de l'architecture, pareil, une architecte va venir en classe, va faire travailler chaque élève sur un relevé, un métré de l'édifice. Au fur et à mesure qu'ils vont travailler, ils vont acquérir des connaissances et ils vont devoir compléter un livret numérique qui est pré-rempli. L'idée étant à la fin de situer un livret numérique du patrimoine de proximité réalisé par les écoles de la Haute-Vienne.
C'est un projet qui va perdurer dans le temps. L'année prochaine, vous allez le reproposer, ce projet ?
J'aimerais bien effectivement continuer à le proposer. Il faut que les partenaires aussi aient cette volonté-là et puis les moyens. J'ai bon espoir qu'il soit pérennisé parce que c'est une belle valorisation au-delà des compétences et connaissances que les enfants rangent. C'est une belle valorisation aussi des différentes structures. La maison de l'architecture, le service de l'inventaire et les archives départementales ont parfaitement leur place dans ce projet. Et normalement, la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine devrait aussi intégrer le projet. Travailler sur sur des images anciennes, ça peut être quelque chose aussi de très intéressant.
À partir du mois de mai, les professeurs peuvent candidater au Sherlock du patrimoine, mais pas que. Le pôle art qui regroupe les arts plastiques et l'éducation musicale propose de nombreux autres projets pédagogiques portés par l'Académie de Limoges. Ingrid Herbst, RMJ pour le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, bien sûr. Mais pour l'heure...
Et peu importe la météo, je serai ton beau temps les jours où il n'y a pas de soleil.
Je serai ton beau temps les jours où il n'y a pas de soleil. Alors Isabelle...
Je préfère ta version, hein. Je préfère la version avec ta voix. Hein.
Isabelle, je vous ai vu fermer les yeux très fort.
Ouais. Bah écoute...
Comme si vous étiez... Je sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas...
Bah c'est... J'adore tes surprises, même quand je n'aime pas la musique en question.
Peu importe voilà. La météo.
Tu vois, c'est ma façon de prendre les choses bien.
Il y a 479 000 vues quand même sur Internet pour ce titre musical.
Bah écoute, ça veut dire qu'il y a 479 000 personnes qui ont les oreilles qui dégoulinent.
Ou peut-être qu'il n'y a encore. Qu'une seule personne qui l'a revue 479 000 fois.
Mais non, je crois que justement, ce n'est pas comptabilisé comme ça, justement. Ah. Il y a 479 000... ordi ou téléphone différent, enfin adresse IP différente, si je ne dis pas de bêtises, qui l'ont vu.
Et qui ont juste mis play ou qui sont allés jusqu'au bout? Parce que moi, des fois, je ne regarde
ça,
pas vraiment.
Ça, par contre, hein. Je ne sais pas.
Bon.
Si les auditeurs et auditrices en savent plus, je veux bien qu'ils nous... On veut bien qu'ils nous contactent pour nous apprendre ça, parce que ça, je ne sais pas.
En tout cas, voilà. Isabelle, je veux bien être ton soleil de demain.
Alors, tu veux bien être mon soleil de demain? Eh bien, ça tombe bien, ça va marcher. Ça va marcher, dis donc, parce que le programme de cette météo de demain, vendredi 26 mai, sera en deux parties bien distinctes, le matin, sous un soleil... Vous m'avez compris ? Sous un soleil franc et radieux, avec des températures qui se situeront entre 15 et 17 degrés le matin. C'est bien.
Et pourtant, ton soleil n'était pas franc et radieux. Hein.
C'est vrai, il était super brouillé, il y avait un max de nuages. Non, 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 mais demain matin, vraiment, c'est là où on voit que tu es mon soleil, c'est que demain matin, tu brilles encore dans le ciel, tu vois. Et il fait chaud. C'est ça qui est bien.
Chaud.
Par contre, l'après-midi, tu disparais légèrement parce que l'après-midi nous promet l'apparition de possibles petites averses entre les éclaircies. C'est pas la cata, mais ça commence à se gâter légèrement. Il va faire humide. Le mercure, lui, quant à lui, affichera autour de 23 degrés à Ussel et Aigleton, 25 à Treignac et Userche, 26 degrés à Tulle et Argentat, jusqu'à 27 degrés à Brive et Beaulieu sur Dordogne.
27 ?
Oui.
Mais dis donc, on sent le... Ça y est, le mercure s'emballe.
Tu le sens, ce petit mercure qui
Je le sens, oui. Oui. Merci beaucoup, Miss Météo. On se retrouve lundi.
Non,
c'est férié lundi.
Ah là 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 là.
Ah, ce mois de mai, vraiment compliqué. D'ailleurs, oui,
c'est le joli mois de mai qui nous ravit quand même. Non, mais on aime bien venir ici quand même.
Moi, j'aime bien être là, ouais. Donc, on
sera
se retrouve
pas là
mardi.
Lundi.
Non,
voilà.
Mardi.
Toi, tu seras là demain, par contre. Hein.
Oui, je serai là demain. Rassure pour annoncer le temps du week-end à nos auditeurs et auditrices fidèles et les autres.
Moi, je vous dis à toutes et à tous à mardi et je vous fais des bisous.
À mardi, Miss Météo. C'est la fin de cette émission et de ce direct. Un grand merci à Gilles Ratier, Sébastien Vidal, Isèle Dijoux et merci à Isabelle et à vous, auditeurs et auditrices, fidèles et d'ailleurs. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Bram FM dans l'onglet « Vous êtes ici », c'est le nom de l'émission. La suite du programme sur les ondes à 15h, bienvenue chez moi. Ce soir, évidemment, c'est votre rendez-vous avec Babel Rock Trophy, bien sûr. Moi, je vous retrouve demain avec une émission, une très riche émission, avec une très belle bande de chroniqueurs et de chroniqueuses. On va sûrement beaucoup rire, parler un peu de patrimoine et de jardin. Rendez-vous donc demain à 13h. D'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute de Bram FM, bien sûr.
Bram FM.
Rémi, 21 ans, d'un côté de la barrière. Je sais...
sert à vous faire peur, personne ne doit s'éveiller.
Se réveiller, se déchaîner, se libérer, se rebeller. Et j'attends des heures sans même pouvoir bouger.
Sous le soleil et sous la pluie, sans bailler ni éternuer. Et je sens l'attente.